Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Au programme, le temps fort de l'actualité en RDC et à travers le monde, le développement des principaux dossiers du jour, ainsi que le reportage et témoignages recueillis par nos correspondants sur le terrain. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Kamina entre attente et espoir. À la veille de l'arrivée du président Félix Tshisekedi, la population du Olomami nourrit de nombreuses attentes en matière d'infrastructures, d'économie et de services sociaux de base. Ituri, les barrières illégales résistent aux mesures de démantèlement sur la route Bunia-Bokoro. Conducteurs et taximen dénoncent la poursuite des perceptions malgré les instructions du gouverneur militaire visant à supprimer toutes les barrières non autorisées. La invite de Radio Okapi à l'issue d'une mission au Nord Kivu et en Ituri, le représentant pays de l'UNFPA en RDC dresse l'état des lieux de la situation humanitaire et évoque les réponses apportées aux besoins des populations. Kamina retient son souffle à quelques heures de l'arrivée du président de la République dans la capitale du Olomami. Les préparatifs s'intensifient en vue de l'accueil de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu ce mercredi pour une visite officielle majeure. Depuis plusieurs jours, les autorités provinciales multiplient les réunions de coordination, tandis que les services publics et les habitants se mobilisent pour réserver au chef de l'État un accueil à la hauteur de l'événement. Dans les rues de la ville, l'effervescence est palpable. Opération d'assainissement, embellissement des principales artères, installation des banderoles et mobilisation des forces vives témoignent de l'importance accordée à cette visite présidentielle. Mais au-delà des préparatifs et de l'ambiance festive qui gagne progressivement la ville, de nombreux habitants voient dans ces déplacements une occasion de mettre en lumière les principaux défis auxquels fait face la province. Infrastructures, eau, électricité, emploi et développement économique figurent parmi les préoccupations les plus souvent évoquées. Éclairage signé Jean Gandou.
C'est la première fois que Félix Tshisekedi foulera le sol de Kamina depuis sa dernière élection en 2023. À l'approche de cet événement, les autorités ont mobilisé la population pour des travaux d'assainissement de la ville. Coup de brosse par ici, coup de balai par là, les principaux carrefours et ronds-points de Kamina sont nettoyés et aménagés pour la circonstance. Pour de nombreux habitants, cette visite constitue une occasion unique de soumettre au président de la République les principales difficultés auxquelles est confrontée leur province.
La réhabilitation de routes et que chaque famille puisse avoir accès à l'eau.
La réhabilitation des infrastructures routières qui favorise la création d'emplois et le soutien à l'entrepreneuriat.
Il y a des attentes au niveau de l'électricité.
Certains habitants de Kamina se disent d'ailleurs surpris de constater que depuis l'annonce de la venue du président de la République, les coupures intempestives d'électricité ont considérablement diminué, tandis que l'eau coule régulièrement au robinet. Selon les autorités locales, le séjour de Félix Tshisekedi à Kamina sera notamment marqué par l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Ovoï installée dans le quartier Congo. Après son étape de Kamina, le chef de l'État se rendra à Kanyamakassese, toujours dans la province du Olomami, où il procédera également à l'inauguration de plusieurs ouvrages réalisés par les anciens délinquants appelés bâtisseurs enrôlés dans le service national.
Un aéroport silencieux, une piste à l'abandon et tout un symbole du déclin des infrastructures. À Matadi, chef-lieu du Congo central, plus aucun avion ne décolle de l'aéroport national d'Entchipi depuis plusieurs années. Inauguré en 1955, cette infrastructure, autrefois stratégique, se dégrade au fil du temps. Route d'accès impraticable, installation vieillissante, piste de 1570 mètres jamais asphaltée. Le constat est alarmant. Situation d'autant plus préoccupante que Matadi abrite le principal port maritime de la République démocratique du Congo. État des lieux avec Élise Kavira.
À peine quitté la route nationale numéro 1, le décor est planté. Un épais nuage de poussière accompagne les véhicules qui prennent la direction de l'aéroport national de Chimpi. Sur près de 4 km, la route en terre est marquée par des nids de poules et des signes visibles de dégradation. Pourtant, l'aéroport national de Chimpi constitue la principale porte d'entrée aérienne de la ville de Matadi. Construit entre 1952 et 1954, il a été inauguré en 1955 avec l'atterrissage d'un avion Douglas C-4 transportant à son bord le roi Baudouin de Belgique. Pendant de nombreuses années, cet aéroport a joué un rôle stratégique dans les liaisons aériennes entre le Congo central et le reste du pays, contribuant ainsi au développement des échanges et au désenclavement de la province. Plus de 70 ans après sa mise en service, sa piste longue de 1570 mètres est toujours en latérite, un revêtement de terre rouge compactée. Entre routes d'accès dégradées, infrastructures vieillissantes et activités aériennes à l'arrêt, cet aéroport reste loin des standards attendus pour une ville d'une telle importance économique et stratégique. Malgré les multiples annonces et promesses de réhabilitation formulées au cours des années, les changements concrets se font toujours attendre. L'aéroport de Chimpi à Matadi attend toujours sa modernisation. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Kintambo Magasin change de visage. Ce mardi, l'un des carrefours le plus fréquenté de la capitale a été au cœur d'une vaste opération d'assainissement menée par les éléments du service national. Objectif, libérer les espaces publics, améliorer la circulation et redonner à ces points stratégiques de Kinshasa un cadre plus ordonné et plus salubre. Sur place, de nombreux passants saluent cette initiative qu'ils jugent nécessaire face à l'occupation anarchique des trottoirs et des emprises publiques. Mais cette opération ne fait pas que de heureux. Plusieurs petits commerçants sommés de quitter les lieux qu'ils occupaient parfois depuis plusieurs années dénoncent les conséquences de cette mesure sur leurs activités et leurs revenus. Entre satisfaction des usagers et inquiétude des vendeurs ambulants, l'opération suscite de réactions contrastées. Reportage de Daniela Awa.
Kitambo Magasin, véritable carrefour d'où partent les véhicules à destination de plusieurs quartiers de la capitale, est l'une des principales plaques tournantes du trafic quinois. Habituellement bondé de monde, ce lieu où se croisent taxis, passants et commerçants est aussi le théâtre d'intenses activités économiques. Mais ce matin, Kitambo Magasin présente un tout autre visage. Armé de balais et de pelles, le jeune bâtisseur du service national a investi les lieux avec pour mission d'assainir cet espace public et de rendre la circulation plus fluide. Le changement est déjà perspectible. Les vendeurs qui occupaient habituellement cet espace ont été contraints de libérer les lieux. Ils n'ont qu'un seul souhait, reprendre leur activité après le départ de ceux qui y travaillent.
La manière dont ils balayent n'est pas mal. Mais pour nous qui vendons au marché, beaucoup de familles meurent de faim et paient le loyer à partir de ces activités. Il faut qu'on trouve une solution de ce côté-là.
D'autres passants espèrent que cette opération sera pérenne pour redorer le blason de cet espace terni par le désordre qui s'y est installé.
L'incivisme avec lequel nous vivons fait un peu mal. On va voir que les mêmes gens vont revenir pour remettre encore à zéro tout le travail qui est en train de faire.
Notons que la première étape de ces travaux d'assainissement a commencé il y a plus d'une semaine dans les districts de la Tchangou.
Les barrières tombent sur les ordres mais restent debout sur le terrain. En Ituri, les usagers de la route Bunia-Bogoro continuent de dénoncer les tracasseries militaires qui rythment leur quotidien. Sur ces tronçons d'une vingtaine de kilomètres, conducteurs et taximens affirment être contraints de payer à plusieurs points de contrôle. Pourtant, il y a quelques jours, le gouverneur militaire de l'Ituri a annoncé le démantèlement de toutes les barrières illégales. Entre décisions officielles et réalité du terrain, l'écart semble persister. Pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, Martial Kizabiamungu a emprunté cet axe routier. Voici son reportage.
À bord de notre véhicule, nous quittons Bunia en direction de Bogoro. À peine 9 km parcourus et que déjà s'adresse le premier point de contrôle à Mbogo. Ici, les taximens moto ralentissent, sortent quelques billets de leur poche et remettent directement 500 francs congolais aux militaires présents sur place avant de reprendre la route. Nous poursuivons notre trajet. Quelques kilomètres plus loin, à Nyakiro, même décor, même pratique. Derrière une corde servant de barrière, un militaire marque chaque moto à l'aide de feutres après perception de l'argent exigé. Les passages n'est accordé qu'après paiement. Pour les usagers, ces prélèvements répétés deviennent insupportables. Nous sommes fatigués avec les tracasseries des militaires. Ils ont érigé plusieurs barrières sur la route. Le travail des militaires est de protéger la population et c'est bien, pas demander l'argent. Ils demandent aux autorités provinciales d'assurer un suivi rigoureux afin que cette mesure soit effectivement appliquée sur le terrain. Les mêmes constats sont également rapportés sur la route nationale numéro 27, notamment sur le tronçon Commanda Bounia et Bounia Magui, selon plusieurs témoignages recueillis. Martial Kizapiamungu, directeur de Bogoro, Radio Okapi.
Ils transportent les vivres, ils ravitaillent les marchés, ils font tourner l'économie locale. Pourtant, ils se disent étouffés par les taxes. Au Kasaï central de Bayanda, ces courageux transporteurs à vélo qui relient les zones rurales à Kananga dénoncent la multiplication des services de perception le long de leurs itinéraires. Un véritable parcours du combattant pour ceux qui permettent à la ville d'être régulièrement approvisionnée en denrées de première nécessité. Aujourd'hui, il réclame un allègement de ses charges. Écoutons ce reportage d'André Katende Ngala Moulumé.
À vélo, il parcourt parfois des dizaines de kilomètres pour approvisionner Kananga en produits de première nécessité. Mais leur trajet est loin d'être facile. Les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, dénoncent la multiplication des taxes et des postes de contrôle sur les routes qu'ils empruntent. Ils accusent la Direction Générale des Recettes du Kasaï Central d'être à l'origine de ces tracasseries. Sur les 63 kilomètres qui séparent Demba de Kananga, ces transporteurs affirment traverser une dizaine de postes de perception. Une situation qui, selon eux, complique considérablement leur activité. Louis Moulumba, l'un de ces transporteurs, raconte qu'il y a plusieurs postes sur la route et à chaque poste, ils sont obligés de payer pour obtenir des documents, même constat pour Jacques Kabeya. Ces transporteurs affirment que, d'un poste à l'autre, les agents exigent des nouveaux documents ou le paiement d'une caution pour laisser passer le marchandise.
Il y a toujours des conditions pour ceux qui ont les documents et pour ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous avez les documents, le contrôleur vous dit que ce sont des faux documents dans le but de vous soutirer de l'argent.
Contactées, les autorités de la DGRCAC ont indiqué qu'elles se prononceraient prochainement sur ces accusations. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Goma tournait au ralenti ce mardi matin. Entre 7h et 11h, de nombreuses activités économiques et commerciales ont été perturbées dans plusieurs quartiers de la ville à la suite d'une marche pacifique organisée par une plateforme regroupant des organisations de la société civile et des forces vives du Nord Kivu. Répondant à cet appel, plusieurs habitants ont quitté leurs activités pour prendre part à la mobilisation. Les manifestants ont parcouru différentes artères de la ville avant de converger vers le quartier général de la MONUSCO. Sur place, un mémorandum contenant leurs revendications a été remis aux responsables de la mission onusienne. Retour sur cette matinée de mobilisation avec John Chibouaboua.
Depuis 7h heure locale jusqu'à 11h, boutiques, marchés et de nombreux commerces sont restés fermés dans la ville de Goma. Le transport en commun ainsi que la circulation de véhicules privés ont également été fortement perturbés. Certaines personnes qui tentaient de se rendre à leur lieu de travail ont été stoppées au niveau du stade de l'unité. Plusieurs véhicules, tant privés que des transports en commun, ont été immobilisés jusqu'à la fin de la manifestation. L'appel à la mobilisation attribué à une plateforme se présentant comme la société civile plurielle et les forces vives du Nord Kivu avaient été largement relayées dans la veille par le cadre des bases. Selon ces derniers, cette initiative s'inscrivait dans une décision prise par les autorités des faits de la FCM23. Si les organisateurs ont présenté l'événement comme une marche pacifique, certains habitants interrogés ont regretté son caractère qu'ils jugent contraignant. Selon la déclaration remise à la MONUSCO, la manifestation visait notamment à dénoncer les sanctions imposées à certains dirigeants de la FCM23 ainsi qu'à exprimer une opposition au projet de réforme de la Constitution de la RDC, entre autres. Pour rappel, le 14 juillet dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ajouté à sa liste des sanctions Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que 5 autres responsables des groupes armés, dont un cadre du M23.
10 écoles parties en fumée en l'espace d'un mois à Nyunzu, dans la province du Tanganyika. La multiplication des incendies d'établissements scolaires alarme les autorités et les communautés locales. Derrière ces actes, les versions divergent. Pour les responsables du secteur éducatif, il s'agit d'œuvres des jeunes délinquants. Mais sur le terrain, certains habitants évoquent plutôt une colère grandissante autour du retard dans l'inauguration des infrastructures scolaires réalisées dans le cadre du programme de 145 territoires. Entre accusations, frustrations et inquiétudes pour l'avenir des élèves, le ministère reste entier. Le point avec Paulin Munanga.
Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs bâtiments scolaires, notamment des salles de classe avec leurs charpentes et toitures, ont été entièrement détruits par les flammes. Le chef de la sous-division de l'éducation nationale de Nyunzu condamne fermement ces actes qu'il qualifie d'ignobles. Mwamba Salumu attribue ces incendies à des jeunes délinquants et souligne qu'il s'agit d'une situation sans précédent dans le territoire de Nyunzu.
Nous avons arrêté au moins l'incendie de 10 écoles. Les auteurs, nous avons constaté que la délinquance est livrée et l'utilisation de chanvrer que nous avons constaté comme l'élément moteur de cet incendie des écoles.
Cependant, d'autres sources indiquent que ces actes sont les résultats des frustrations pour la simple raison que les nouvelles écoles modernes construites dans le cadre du programme de développement 145 territoires achevées depuis plusieurs mois ne sont toujours pas opérationnelles, ce qui alimente la colère de la communauté. Une occasion pour les sous-prophètes de demander aux autorités de procéder à l'inauguration de ces écoles. Mwamba Salumu demande par la même occasion aux personnes de bonne volonté et des partenaires de venir en aide pour la réhabilitation de certaines écoles incendiées. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Kindu, la vigilance est de mise à la prison centrale. Une épidémie de varicelle y a été détectée, suscitant l'attention des autorités sanitaires provinciales. Tout est parti d'un constat réalisé le 24 juillet dernier par l'abbé aumônien de la prison, puis relayé par une organisation engagée dans la défense de droits humains. Après vérification sur le terrain, la division provinciale de la santé a confirmé la présence de la maladie et élaboré un état de besoin pour assurer une prise en charge efficace de détenus concernés. Selon les autorités, une dizaine de prisonniers sont actuellement atteints. Des mesures de prévention et de traitement ont été engagées afin d'éviter une propagation de la maladie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Le point avec le docteur Alexis Kingombe Tchomba, ministre provincial de la Santé du Maniema, interrogé par Florence Kizalunga.
Oui, effectivement, les cas de varicelle sont confirmés dans la prison centrale de Kindu depuis la semaine passée. Nous avons notifié 12 cas que la division provinciale est en train de prendre en charge. Donc, on a commencé par le bureau hygiène. Le bureau hygiène est descendu là-bas. Et vous savez qu'il y a un problème. Les prisonniers ne se baignent pas par manque de savon, malgré que la régie des eaux est en train de fournir de l'eau là-bas. Donc, c'est un problème de propriété. Et la division provinciale est allée investiguer et ils ont fait l'état des besoins. Cet état de besoin, le gouverneur a répondu favorablement pour les soins des prisonniers. Le gouverneur a acheté des médicaments pour la prise en charge, et ce qui nous a permis aussi de séparer ceux qui sont malades et à ceux qui ne le sont pas. Les médicaments sont là disponibles et le gouverneur de province a acheté pour la prise en charge de ces malades en prison centrale. Par rapport à d'autres malades, dernièrement on a resté les cas de la tuberculose. On a dépisté quelques prisonniers et ils sont pris en charge. Parce que vous connaissez que le traitement de la tuberculose est gratuit et ils sont en train de prendre les médicaments.
Actualité internationale.
Un violent séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi la préfecture de Kumamoto sur l'île japonaise de Kyushu. Selon plusieurs médias locaux, le bilan provisoire fait état d'un nombre important de victimes, tandis que plusieurs personnes seraient toujours piégées dans un centre commercial touché par l'effondrement d'un bâtiment. Les autorités japonaises poursuivent l'évaluation des dégâts. De nombreuses infrastructures ont été affectées, notamment des routes, des ponts et plusieurs bâtiments. Des coupures d'électricité et des incendies ont également été signalés dans certaines zones. Au moins 50 personnes ont été hospitalisées et plusieurs habitations se sont effondrées dans la région. Les opérations de secours se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres et de venir en aide aux populations affectées.
L'invité.
Au contact des populations du Nord Kivu et des Litori, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a pu mesurer l'ampleur des défis auxquels restent confrontées les communautés affectées par les conflits et les crises sanitaires. Protection des femmes et des filles, prise en charge des personnes vulnérables, accès aux services de santé reproductive et accompagnement des jeunes. Tels sont quelques-uns des enjeux abordés lors d'une récente mission de terrain menée dans l'est du pays. Quels enseignements en tirer? Quelles réponses apporter aux besoins exprimés? Le représentant pays de l'UNFPA en RDC, Alain Akpadji, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Alain Akpadji, bonjour.
Bonjour.
Après votre mission dans la région des Beni au Nord Kivu et à Bunia Nituri, quel est le principal constat que vous retenez sur la situation des femmes, des jeunes et des communautés confrontées à la fois à l'insécurité et à l'épidémie d'Ebola?
J'ai noté une augmentation énorme des besoins en matière de protection, en matière de continuité des services de santé sexuelle et de la reproduction. Et si les actions nécessaires, les investissements nécessaires ne sont pas multipliés, qu'il y a un risque vraiment d'affaissement. L'environnement en matière de protection des femmes, des jeunes et des communautés est en train de se fragiliser. Et vous pouvez le constater par le nombre élevé de déplacés internes. On parle de près de 2 millions dans le Nord Kivu actuellement et près d'un million dans l'Ituri, dont la conséquence directe, c'est l'augmentation des violences sexuelles utilisées par les groupes armés comme Abdeker. Les femmes et les filles sont violées. Au niveau des questions de la santé sexuelle et de la reproduction, à Oicha par exemple, on a vu un engorgement des maternités lié justement à cette question de déplacement. Nous avons vu également les survivantes de viols, de violences sexuelles, qui ont exprimé des préoccupations très très importantes. Quand nous prenons l'exemple de Bunia, nous avons constaté une augmentation du nombre de décès maternels. Nous enregistrons depuis le début de l'épidémie près de 109 cas de décès maternels qu'on pourrait vraiment éviter. Et nous avons constaté malheureusement une baisse de taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié, et ce chiffre autour de 15 000.
Au cours de votre mission, quels sont les besoins les plus urgents qui vous ont été exprimés par les autorités sanitaires, les partenaires et les populations, notamment en matière de santé reproductive et de protection des femmes?
À Oicha, par exemple, les besoins immédiats qui ont été clairement exprimés, c'est de voir comment rapprocher d'eux les services en matière de santé sexuelle et de la reproduction, ainsi que les services en matière de protection, de lutte contre les violences basées sur les genres, ainsi que la lutte contre les exploitations et abus sexuels pour augmenter l'engagement communautaire. Et ceci a été clairement exprimé par les autorités locales de pouvoir mettre en place au niveau des sites, de déplacer par exemple des cliniques mobiles pour assurer que les services essentiels puissent être fournis à ces communautés-là. Nous avons le renforcement des capacités du système de santé pour assurer la continuité des services en matière de mortalité maternelle et mortalité infantile et prise en charge systématique des viols. Nous avons des besoins de multiplier le nombre de maternités parce que les maternités qui étaient construites avant la crise se retrouvent dans des situations de débordement total. Vous voyez un lit où il y a deux ou trois femmes avec les enfants et ce n'est pas des conditions favorables. Nous avons les besoins en matière de disponibilité des sages-femmes et donc ce sont des choses sur lesquelles l'UNFPA ensemble avec les autres acteurs du système des Nations Unies, ainsi que les partenaires techniques et financiers, nous allons travailler pour apporter des réponses de façon durable.
Vous avez notamment remis des ambulances aux hôpitaux de Beni et de Oicha. Au-delà de cet appui, quel engagement concret l'UNFPA attend-elle prendre pour accompagner durablement cette région du Nord Kivu?
Nous voulons multiplier maintenant les maternités. C'est l'exemple de ce que nous sommes en train de faire dans l'hôpital général de Beni, où la construction d'une nouvelle maternité est déjà envisagé avec l'apport de nos partenaires techniques et financiers, le FCDO du gouvernement britannique, le Fonarev que je remercie. Nous travaillons aussi sur un plaidoyer avec le gouvernement et les parties prenantes pour que les budgets au niveau du gouvernement provincial soient désormais alloqués pour ce processus de mécanisation des sages-femmes.
Dernière question, en terminant votre mission Nord Kivu et à Nituri, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités congolaises, aux partenaires internationaux et aux habitants des 7 régions qui vivent depuis des années entre conflits armés et crises sanitaires.
De façon spécifique pour les autorités, je voudrais qu'elles continuent de renforcer les mesures de protection et de sécurité pour le personnel humanitaire. Donc au niveau des habitants, je voudrais leur dire de quoi que l'espoir est possible. Les partenaires techniques et financiers, de les remercier aussi pour tout ce qui est fait jusqu'à présent, mais de lancer un message, c'est maintenant qu'il faut agir. Et le coût de l'inaction est très très élevé. Et si nous n'agissons pas maintenant, surtout par rapport à Ebola, nous risquons une autre crise après.
Allez, Akwadi. Merci.
Merci beaucoup.
Vous suivez Alain Akpagi, représentant pays de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Invité de Radio Kapi s'exprimer sur la situation humanitaire dans l'est du pays après une mission menée au Nord Kivu et en Ituri. Entretien réalisé par Martial Papi Mukeba. Ainsi s'achève ce journal de 18h. À la présentation Gisèle Cage, à la mise en onde Alain Goy. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet www.radiokapi.net. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes numérique pour ne rien manquer de l'actualité et sur notre application mobile Radio Kapi. Au nom de toute l'équipe de la rédaction, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous, où que vous soyez dans le pays et ailleurs dans le monde.